Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir ce que c'est que l'art de l'obstacle ? Fortitude est le podcast consacré à la force morale, à la résilience sous toutes ses formes, vous le savez. J'ai désormais eu le privilège de recevoir des dizaines d'invités qui, chacun à leur manière, ont surmonté ou surmontent encore l'adversité. Mais je dois avouer que c'est la première fois que j'ai le plaisir de recevoir une personne qui a su en faire un art. Mounia Moula a grandi en banlieue, comme on dit, dans le 94. Petite, on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard. Elle répondra « ninja ». Ce que l'on aurait pu prendre comme un rêve de gosse s'est transformé en une réalité. Mounia ne tenait pas en place, elle devait constamment bouger, faire du sport, s'agiter. Mais plutôt que de s'en inquiéter, comme beaucoup de parents aujourd'hui, les siens ont eu l'intelligence de ne pas tenter de réfréner ou même canaliser son énergie, mais au contraire, ils l'ont cultivée en multipliant ses activités sportives. Elle découvrira notamment les sports de combat dans lesquels elle excellera rapidement. Elle doit cependant ménager ses rêves avec la dure réalité, les sacrifices de ses parents, qui étaient d'ardents travailleurs mais qui disposaient de très peu de moyens, ne peuvent perdurer encore longtemps. Elle doit trouver un job, un vrai. Mais sa nature la rattrape et surtout sa conviction que sa vie est ailleurs, en tout cas pas dans une routine métro-boulot-dodo. C'est alors qu'elle se trouve justement dans le métro, en se rendant à son petit boulot de l'époque, qu'elle tombe sur une publicité pour une école de cascadeurs. C'est la révélation. Elle y fait ses premiers pas et noue rapidement des amitiés avec des personnes comme elle, qui ne tiennent pas en place, au sens propre. Elle s'entraîne tous les jours, durement, à la poursuite de son rêve qu'elle refuse de lâcher, même si elle ne peut bien entendu pas en vivre. C'est difficile de payer un loyer en faisant des acrobaties dans des jardins publics. Puis c'est la rencontre, le tournant, celle des Yamakasi, le fameux groupe d'experts du parcours ou de l'art du déplacement, que l'on a vu dans le film éponyme et dans d'autres super productions cinématographiques. Une chose mène à une autre, et grâce à sa détermination, son athlétisme hors norme et sa soif d'apprendre, on lui donne enfin sa chance dans une production de Luc Besson. Le train est lancé, plus rien ne l'arrêtera. Sa filmographie est impressionnante, elle a travaillé avec les plus grands, et sera même récompensée à plusieurs reprises par ses pairs, pour Wonder Woman ou James Bond. Alors notre conversation est passionnante à plus d'un titre. Bien entendu, son parcours est inspirant, notamment lorsqu'on est parent et que l'on s'inquiète parce que notre enfant ne tient pas en place et poursuit des rêves qui nous paraissent fous. Nous ne devons pas oublier d'écouter et d'observer pour justement ne pas tuer ses rêves. Mais Mounia est inspirante aussi d'un point de vue philosophique. Elle raconte et elle témoigne comment des jeunes peuvent se dédier à un art qu'ils façonnent à leur manière et qui devient indissociable de leur existence. De son récit, il ressort ce principe dont je suis intimement convaincu. Le sens de l'existence réside dans l'action, quelle qu'elle soit. Se dédier à accomplir quelque chose, y dévouer son être, avec le plaisir de la camaraderie qui l'entoure et du sens de l'effort. Voilà une belle manière de donner du sens à son existence. Alors accrochez-vous, car Mounia casse la baraque. Mounia Moula, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer avec à Fortitude. Vous. Tu es connue principalement parce que tu es, encore aujourd'hui, une des plus grandes cascadeuses françaises, c'est bien ça ?
Oui, en tout cas, une des plus anciennes maintenant. Aussi, oui. Également.
Quand on dit grande, c'est oui, parce oui, que connu, parce que voilà, tu as beaucoup d'expérience, que tu fais ce métier depuis longtemps et bien évidemment, on ne va pas te résumer à ce métier-là, mais c'est vrai que c'est un profil qui sort du lot, qui est particulier. On va y revenir. Bien évidemment, on va commencer un petit peu par ton parcours parce que très, très curieux de savoir comment une jeune femme peut se retrouver un jour face à la décision de se dire « je vais me lancer dans la cascade, je vais en faire ma vie, je vais avoir cette vie un petit peu atypique ». Et donc, si tu le veux bien, je voudrais qu'on reprenne un petit peu depuis le début. Tu es née en 1984, tu as grandi à Ivry-sur-Seine, c'est ça ?
Oui, à Ivry-sur-Seine.
Dans une cité dont j'ai noté qu'elle s'appelait la cité, ou qu'elle s'appelle d'ailleurs toujours, la cité de l'insurrection, c'est ça ?
Voilà, oui.
Tout un programme.
C'était déjà destiné.
Mais alors, de quelle insurrection est tiré le nom de cette cité ?
D'août 1945, pardon.
Lors de la libération.
Absolument. Aujourd'hui, ça s'appelle, depuis pas longtemps, les jardins de l'insurrection.
Ouais. Très intéressant. Donc, effectivement, je comprends mieux comment tu avais cet ADN et cette énergie et ce feu en toi pour avoir le parcours que tu as eu. Tout s'explique. Comme quoi, voilà. Le nom de là où on vit peut parfois avoir une grosse influence. Alors, j'ai lu que, parce que j'ai essayé de faire bien évidemment ma petite enquête, pour en connaître un peu plus sur ton parcours et sur ta vie. Et tu vas nous raconter tout ça. J'ai noté que tu as dit un jour à un journaliste que toute petite, quand à l'école on te demandait quel métier t'intéressait, toi tu répondais que tu voulais être ninja.
Oui, c'est ça.
Alors vas-y.
Je m'en souviens encore comme si c'était hier.
Et à quel âge, t'avais quel âge quand tu te
Alors,
destinais à cette profession un peu atypique?
en tout cas, si mes souvenirs sont bons, j'avais 8 ans lorsque, alors on était simplement à l'école en atelier créatif pour préparer des masques pour un carnaval. Et je voyais toutes mes amies, et pourtant j'adore la couleur et j'adore dessiner depuis toute jeune. Et je voyais mes amis donc confectionner des masques avec des plumes, etc. Et en fait, je m'étais fait un peu gronder parce que j'avais peint le masque que j'avais imprimé, enfin, qu'on m'avait fait imprimer, tout en noir, tout simplement. Et puis, j'y avais absolument rien à ajouter dessus. Donc, la maîtresse me dit simplement, est-ce que tu as terminé ton masque? Et je lui dis oui, c'est juste ça. C'est parti de là. Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est assez basique. Ça pourrait être juste le fond de quelque chose, des paillettes. Je lui dis, non, c'est exactement le masque que je veux. C'est un ninja. Voilà. Tout est parti de là.
Et donc,
Donc, bon, elle m'a laissé tranquillement avec mon masque parce que je lui ai expliqué ce qu'était un ninja. Et pour moi, ça représentait surtout. Il y avait un côté assez mystique, nocturne, d'une avancée nocturne, d'aller justement par rapport à une cause, défendre quelque chose dans la nuit, au clair de lune. Enfin, je me faisais tous mes films comme ça, avec des acrobaties, des saltos, de la bagarre, etc. Et puis, c'était exactement ce que j'aimais faire. Du coup, monter sur des arbres, me faire mes propres scénarios. Et voilà. Donc, c'est parti de là. En tout cas, je pense, j'avais déjà cette envie très tôt, sans savoir ce qu'était, enfin que c'était possible, certes, en tant que métier, mais en tout cas, je ne voulais faire que ça.
donc c'est une vocation que tu as eue, une vocation, oui, vocation d'être ninja,
Oui.
que tu as eue toute très jeune.
Oui.
Est-ce que tu
Oui.
avais beaucoup de ninjas dans ta famille? Ou est-ce que c'était l'influence? Alors, je plaisante bien évidemment, mais l'idée c'est de savoir est-ce que, voilà, dans ton entourage proche, tu avais des sportifs, peut-être des gymnastes, des combattants ou autres qui t'ont insufflé un petit peu cette curiosité, qui t'ont un petit peu inspiré, ou est-ce que c'est un peu la pop culture, les films, la télé, les dessins animés. Comment ça t'est venu? Moi, je suis toujours assez curieux de savoir comment ces intuitions, ces petites étincelles du début peuvent naître, si ça vient de l'entourage ou si ça vient vraiment de soi, du plus profond intérieur, sans que forcément il y ait d'explication.
Alors peut-être que au niveau de ma famille, oui, il y a eu des grands sportifs, certes, mais je veux dire à cet âge, et puis même en grandissant, je n'ai pas eu accès à cela. Je ne les ai pas forcément rencontrés. J'ai su par la suite qu'il y avait des sportifs, des artistes, etc. Mais je pense que ça m'a été révélé comme ça d'un coup. En fait, les dessins animés plutôt que les films, puisque je regardais la télé, mais j'étais pas, je regardais sans regarder. J'ai toujours été un peu enfin, dans un autre monde aussi, très hyperactive aussi. Et du coup, je tenais jamais en place et je pouvais pas rester longtemps dans quelque chose. Alors, ni devant un film, ni je tenais pas en place. C'est vraiment, et j'avais toujours quelque chose par rapport au physique. Donc, je n'ai pas vu ni mes parents ni des membres de ma famille dans un sport précis ou une discipline. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré ça. En tout
C'était
cas,
inné, quoi.
oui, il y a quelque chose en fait en moi qui j'avais la bougeotte et il fallait que ça aille vite, que je sois dans une activité toujours, on va dire, j'avais besoin d'être stimulée tout le temps, de bouger physiquement, de faire des choses de mon corps, etc. Toujours, et puis très, très créative, par contre. Très
C'était des
créative.
spectacles, des choses comme ça.
Oui, des spectacles, j'ai inventé moi-même des choses. Pour monter sur des murs, des machins. Pourtant, je n'avais pas eu d'inspiration spéciale, maman.
Est-ce que ça
Pas
inquiétait tes parents?
du tout.
Parce que j'imagine que ça devait avoir peut-être un impact sur ta scolarité? Est-ce que les professeurs se plaignaient peut-être de ton manque de d'attention ou alors ton hyperactivité, le fait que j'imagine que ça devait être un peu compliqué pour toi de rester assis sur une chaise toute la journée à écouter tes profs?
Oui, alors ça s'est manifesté surtout alors quand j'étais plus jeune, parce qu'à l'école élémentaire, là oui, j'avais besoin d'être canalisée. C'est pour ça que mes parents m'ont mis très tôt au sport. Parce que les retours qu'on leur faisait étaient, oui, débordantes d'énergie. Faudrait peut-être penser à ce qu'elle est quelque chose, une activité même physique. Donc j'ai commencé très tôt le sport. Et par la suite, j'ai connu enfin plusieurs périodes. Au niveau du collège, c'était beaucoup plus intériorisé, j'étais sur d'autres quêtes, c'était beaucoup plus intime. Voilà, j'étais même très très pudique, très timide également. Il y avait un aspect de timidité, de donc c'était vraiment, ça s'est manifesté à plusieurs moments de ma vie. Mais ma période jusqu'à mes 14-15 ans, c'était vraiment c'était ça, c'était un tsunami. Voilà, donc ça n'a pas inquiété mes parents. Ils se sont juste dit, bon, un enfant qui a besoin de faire plein de choses. Donc mes parents étaient adorables, ils m'ont inscrit à plein de sports, ils me faisaient faire plein d'activités. Je partais même souvent en colonie pour justement des colonies spéciales. C'était des colonies vraiment sportives pour des personnes qui avaient déjà un bon niveau physique. Enfin, voilà, ils m'ont permis de faire plein de choses comme ça pour m'amuser, et parce que même avec le travail et tout ça, je pouvais pas tout le temps être là pour moi.
Oui, donc ils ont surfé la vague, ils n'ont pas du tout essayé
Pas
de
du
s'y
tout.
opposer, ouais.
Oh
Ce qui
non,
est
non, non.
plutôt une bonne approche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de l'hyperactivité des enfants, et très souvent ça a une connotation un peu négative. On n'arrive pas à gérer les problèmes de discipline et autres, et c'est voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment certaines familles peuvent gérer ça. Et cette énergie, il ne s'agit pas forcément de la réprimer ou de la canaliser, mais de l'embrasser, quoi. C'est un petit peu ce que je retiens de ce que tu nous expliques là.
Oui.
Ils ont su embrasser cette énergie et que tu puisses par la suite en faire quelque chose. Alors.
Alors, j'ai par contre toujours été très studieuse. Très, très, très studieuse, très bonne élève. C'est juste que je m'ennuyais considérablement à l'école. Je m'ennuyais, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on devait apprendre des dates par cœur, des choses comme ci. Il y avait forcément l'histoire, etc. Mais tout dépendait du professeur. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques professeurs formidables dans ma vie, ce qui m'a permis de vraiment rester et de captiver mon attention. Mais c'était tellement rare que j'avais juste hâte de finir l'école et de rentrer et d'être dehors, en fait. D'être dehors et de m'amuser, de faire des choses comme ça, de faire du sport. Donc, ça pour en revenir au fait que oui, j'ai toujours été studieuse parce qu'il fallait l'être. Ça aussi, c'était important pour qu'on me laisse tranquille. Bon, fallait bien travailler à l'école, ramener des bons résultats, passer mon bac, etc. Donc je me suis gardé cette ligne de conduite. J'avais la faculté aussi d'apprendre assez rapidement. Donc voilà, j'ai passé ensuite mon baccalauréat littéraire. Là aussi, les options que j'ai choisies étaient artistiques. J'avais choisi théâtre et art plastique. Donc voilà, mon bac se passe super bien, je l'obtiens du premier coup. Et là, après le bac, waouh, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait? Alors j'avais toujours exprimé la volonté de faire un métier à travers le sport, à travers les choses comme ça. Mais les conseils que j'ai reçus, et en plus à l'époque, ben, moi, il n'y avait pas toutes ces possibilités comme aujourd'hui d'avoir accès rapidement à des propositions de métier, à des formations, etc. Donc, c'était des voies très classiques. Et là, je prends le premier truc en fac de droit. Mais je me suis vite rendu compte que la première année, ce n'était pas fait pour moi. J'étais face à une concurrence hargneuse, surmotivée, qui avait envie de faire ça, alors que moi, j'étais là parce qu'il fallait faire quelque chose et que je ne trouverais rien. Donc, la deuxième année, je l'ai carrément séchée. J'ai même pas passé mon DEUG. Et voilà.
Et du coup, qu'est-ce que tu as fait de cette deuxième année si tu n'allais pas en cours?
Ben, je restais dehors. Restais dehors, je sortais, je prenais le RER, j'allais à Paris, je visitais des boutiques. Mes parents ne savaient pas forcément hein, que j'allais pas à l'université la deuxième année. Je me cherchais tout simplement. Je savais que je ne voulais pas des choses comme ça, des choses comme tout le monde, comme je disais. Une normalité, quelque chose d'assez, bah, je l'ai déjà dit, classique. Donc, j'étais à la découverte de moi-même. Je sortais, j'allais à Châtelet, il y avait des breakdancers, je restais avec eux, j'apprenais de la danse, du breakdance, du hip-hop. Ensuite, ah oh, tiens, Moon, on connaît un autre endroit où il y a par exemple des capoeiristes, où il y a des choses comme ça. Donc, je vivais, enfin, je sortais dans la rue et je me laissais vivre. Dans la rue, partout à Paris.
Là, par rapport à cette époque-là, tu es déjà dans les sports de combat ou pas encore?
Oui,
Oui.
je suis dans la boxe surtout.
Dog style.
Voilà, je faisais même que de la boxe à ce moment-là et du renforcement musculaire à la salle, du fitness. Je m'intéressais déjà aux muscles, à la constitution du corps. Au fonctionnement du corps, à toutes ces notions de posturologie, de machin, enfin, plein de choses comme ça. Donc, toujours à l'attrait au sport et au physique.
Et là, en 2002, tu pars en Thaïlande pour aller t'entraîner justement, pour rejoindre un camp de boxe thaï, c'est ça?
Oui, parce que j'avais donc un ami qui m'a dit, Mounia, je connais quelqu'un qui peut te faire passer des combats parce que, ben voilà, j'avais envie aussi de monter sur le ring pour savoir ce que je valais déjà de moi à moi et de combattre un petit peu tout ça. Et j'avais beaucoup de choses à extérioriser également. J'avais cette envie de combat, voilà, de combat. Donc, je lui dis, OK, super. Et il m'annonce que c'est Kronsack, qui est un des plus grands boxeurs de l'époque, un des plus grands champion du Lumpini. Etc. pendant des années consécutives, waouh, je me dis super, et c'est ton oncle, etc. Il me dit oui, donc par contre, c'est pas une fédération et tout ça, c'est vraiment un entraînement sauvage, c'est sur les quais là-bas, viens avec nous, c'est la
Un Club
famille.
Med.
Non. Et là, pas parfait, donc je commence à m'entraîner avec Kransak et j'ai accès à la vraie boxe thaï dans le sens où c'est lui-même un thaï qui est arrivé en France et qui faisait des allers-retours, c'était comme des espèces de petits mini-séminaires. Donc, c'était super enrichissant. Et là, waouh, je me dis, il y a quelque chose avec la Thaïlande, avec l'Asie, depuis toujours, ça aussi. Et du coup, je veux aller là-bas. Je veux aller là-bas. Et donc, je m'entraîne. Il me fait passer un petit championnat en Île-de-France. Ça se passe super bien. Je commence à voir les premières combattantes sur le ring avec les aspects de dualité, voilà, de fight. Et moi, j'ai jamais été une méchante, entre guillemets, enfin, méchante dans l'expression. C'est-à-dire que même avant de monter sur le ring, j'étais toujours, certes, préparée mentalement, mais je le montrais pas. Tout le monde pensait que je blaguais. Déjà, à me voir physiquement, ils me disaient, mais c'est qui celle-là? Elle va rien faire du tout, etc. Donc, j'ai toujours eu des choses à prouver, dans le milieu, en tout cas. Et c'est ce qui s'est passé à ce championnat, puisque moi-même, ayant vu les combattantes, j'ai eu un peu peur. Honnêtement, au début, je me suis dit, waouh, je vais me faire manger. Parce qu'elles étaient physiquement super imposantes. Et puis, ce qu'elles dégageaient, c'était assez animal. Et moi, j'arrivais vraiment avec le sourire tout le temps sur le ring. Et ma tête de gentille. Et en fait, bah, une fois que j'entendais la cloche sonner, bah, c'est parti. C'est là où j'étais seule dans ma tête et à me dire, bon, ben, c'est maintenant. Donc, ces petits combats amateurs, c'était des combats amateurs, m'ont fait beaucoup de bien à toujours me challenger, me surpasser, accepter aussi mes faiblesses. Donc, grâce à ça, j'ai pu avoir des opportunités pour partir en Thaïlande. Donc, grâce à Kronsack, qui ensuite m'a vu combattre et m'a dit, bah, tu sais quoi? Tu devrais aller en Thaïlande, il y a un camp là-bas, je te donne l'adresse et tu y vas.
Et là, un jour, de ce que j'ai lu, t'es sur la plage et totalement par hasard, tu entrevois des gens qui sont en train de faire peu comme des cascades, des sauts. Alors là-dessus, j'ai eu des Les récits n'étaient pas tout à fait les mêmes en fonction des sources. Quelque part, j'ai lu que c'était des cascadeurs qui s'entraînaient qui travaillaient sur le film Ong Bak. Ailleurs, j'ai lu que c'était des Australiens. Bref, je sais pas trop qui était le profil de ces gens-là, mais en tout cas, ils étaient en train de faire des trucs assez impressionnants. Et là, tu as eu une espèce de révélation, c'est ça?
Je rencontre des gens, en effet, qui pratiquent des acrobaties que je n'avais jamais vues, peut-être une ou deux fois dans des films, mais physiquement, enfin, de mes propres yeux, ayant fait beaucoup d'années de gymnastique également, mais là, c'était des acrobaties de ninja, carrément. Et c'est
On y
là où je me
revient.
dis, waouh, là, je retrouve cet aspect, je me dis, waouh. Et là, je ne veux pas partir sans leur avoir parlé. Et c'est à partir de là qu'il me parle. J'ai eu du mal à comprendre le terme cascadeur, puisque en plus c'était en anglais. Et j'avais pas beaucoup enfin, je parlais anglais, mais c'était pas l'anglais que je maîtrise aujourd'hui. Et en fait, ils me disent, oui, stuntman. Donc, je fais mine de comprendre, mais je ne comprenais pas. Et à un moment, je leur dis, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et ils m'expliquent avec des mots que dans les films, ce sont les intervenants de l'action, etc., etc. Donc, c'était des cascadeurs. Waouh! Et je leur dis, mais c'est un job, c'est un métier. Ils me disent, oui, c'est un métier. Donc là, waouh, grosse révélation. Je me dis, mais alors là, il faut vraiment que je m'arrête et que je me renseigne. Voilà, c'était le premier questionnement que j'ai eu par rapport à ça. Et là, donc, j'écourte mon voyage parce que je me dis, waouh, là, je suis entraînée sur un. Ben justement, je pars sur un train qui ne va pas s'arrêter, à savoir, on va me faire passer un maximum de combats. Il va falloir que je revienne encore en Thaïlande parce qu'il n'y a pas de combattante là pour l'instant. Ou alors, il faudra accepter des combats à une catégorie au-dessus. Ensuite, pour préparer les combats pro, etc., etc., est-ce que je suis sûre de vouloir faire ça? Donc, j'écourte et je rentre chez moi. Je rentre en France. Et là, mes parents me disent, bon, il faut que tu fasses quelque chose, tout simplement, parce que là, la fac, tu as arrêté. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Donc, je suis complètement perdue à ce moment-là, tiraillée de tous les sens. Et une fois de plus, je me renseigne. Waouh, qu'est-ce que je peux faire? Et au final, ils m'orientent vers ce BTS, assistante de gestion PME-PMI. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, etc. Mais bon, ils me disent, bah, c'est très bien, il y a des langues, il y a la compta. Mais moi, je détestais, en fait, la compta, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais il fallait faire quelque chose. Donc,
Fallait rentrer dans une case.
bah, voilà, il fallait rentrer dans une case, donc je m'inscris. Et là, c'était des années très malheureuses parce que j'étais malheureuse dans le sens où j'étais pas libre et j'étais pas épanouie. J'aimais pas ce que je faisais. Grâce à Dieu, j'ai fait cette formation, ce BTS en alternance. Et c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Sinon, j'aurais aussi arrêté, je pense. Donc, c'est là où commence à arriver un miracle. C'est que je vais à cette justement rejoindre mon patron dans cette société. Et là, je suis dans le métro et je prends un journalier qui s'appelle, un quotidien qui s'appelle 20 minutes. Donc, je l'ouvre comme ça et je tombe. Alors là, c'est vraiment un miracle parce que je tombe sur une annonce qui s'appelle « Devenez cascadeur, métier du risque, machin ». Et là, le descriptif, oh, mon cœur s'arrête et j'ai qu'une hâte, c'est arriver au travail pour arriver dans mon bureau et appeler. Voilà, chose que j'ai fait. Ça, ensuite, c'est la suite de l'histoire.
Eh ben, je suis suspendu à la suite de
On
l'histoire.
y va?
Je te
Ok.
laisse. Ah oui, t'as du cardio, donc tu continues.
Voilà. Donc, j'arrive au travail, le sourire, waouh, mais c'est incroyable, enfin, il y a quelque chose qui se manifeste. J'appelle. Et là, je tombe sur le responsable de cette école. Là, ils me disent que c'est payant, parce que c'était quand même un certain montant, qu'il n'y a pas forcément d'aide, que voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Et que c'est donc les fréquences, c'était toutes les vacances scolaires à raison de 2 semaines. Pendant les vacances scolaires, donc ça équivalait à peu près à 5 stages par an. Donc là, je me dis, il y a possibilité de trouver quelque chose. En plus, mon patron est super cool. Voilà, je pense qu'il va comprendre. Donc, je lui en parle, il m'encourage à en parler à mes parents. J'en parle à ma mère qui me dit, écoute, je veux bien t'offrir cette formation. Waouh! Donc, on y va toutes les deux. Elle m'accompagne ce jour-là dans les locaux de cette école. Et je rencontre le responsable. Et là, on signe pour 2 ans. 2 ans de formation.
Là, chapeau,
voilà.
pardon, je te
Ouais.
coupe une seconde, mais je pense qu'on peut quand même rendre hommage à tes parents parce que
Oui.
entre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de d'embrasser ton hyperactivité, ton énergie, sans essayer de la casser, de l'asphyxier, et puis là, d'accepter que sa fille, dont on sent bien qu'elle cherche sa voie, parte dans une direction aussi originale et justement totalement hors des sentiers battus. Il faut avoir une intelligence, une ouverture d'esprit qui c'est rare. Et vraiment, quelle chance d'avoir des parents comme ça.
Merci, oui, j'ai énormément de chance. Oui, c'est des gens, ce sont des personnes formidables. Je les appelle mes parents formidables, de toute façon. Moi, mes parents sont arrivés en France. Ma mère est arrivée à 9 mois en France. Elle a vécu dans le Pas-de-Calais jusqu'à ses 20 ans. Mon papa est arrivé beaucoup plus tard d'Algérie. Mes deux parents sont algériens, de la Kabylie. Donc, en fait, voilà, on a vu la première vague d'immigration avec mes grands-parents, du côté de ma maman qui travaillait à la cristallerie d'Arc. Il y avait encore écrit sur leur carte d'identité indigène. J'avais fait un exposé dessus d'ailleurs. Ensuite, mes parents sont arrivés. Là, pareil, ça a été au fur et à mesure. Donc, c'est vrai ils ont énormément travaillé dur, mes parents. On travaille très très dur. Mon père encore plus dans le sens où c'était très physique son métier, qu'il a appris à écrire le français alors qu'il travaillait sur les chantiers à 2-3 heures de route chaque jour. Je voyais ma mère lui préparer ses gamelles à 3 heures du matin, se lever pour faire à manger, pour qu'il aille voilà travailler avec sa gamelle. Et ça pendant des années, des années, des années durant où j'ai même presque pas vu mon père parce qu'il travaillait tout le temps. Pour nous, pour nourrir ses 5 enfants et sa famille, mais d'un amour, enfin, j'ai même pas les mots pour décrire tout ça. C'est vraiment les personnes les plus importantes à ma vie, c'est mes parents. Donc oui, spéciale dédicace à eux jusqu'à aujourd'hui. Mais mon père qui m'a toujours accompagnée à toutes mes compétitions de gymnastique et qui a toujours suivi mon parcours sportif également, avec qui j'ai pratiqué aussi 4 ans de kung-fu. Alors qu'il travaillait aussi à l'usine, donc il avait 56 ans à l'époque. De 48 à 56 ans, on a toujours fait des choses ensemble et on a fait 4 ans de kung-fu ensemble. Et il s'est inscrit pour moi aussi, pour rester avec moi. Et voilà, donc oui, j'ai eu une chance immense jusqu'à aujourd'hui.
Alors, du coup, tu te lances grâce à tes parents
Oui,
et à ta
oui, oui.
maman qui t'offre cette formation. Pour le coup,
Oui.
tu rentres là vraiment dans le dur.
C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit parce que ça va pas se passer comme je l'avais souhaité. Ma mère me dit très bien, tu t'organises à la. Par contre, je veux bien enfin, qu'on te finance cette école, mais tu restes aussi en BTS jusqu'à obtenir. Un diplôme, ou en tout cas, tu continues ta scolarité en parallèle. Donc, je lui dis oui. Donc là, je m'y prends un petit peu plus au sérieux. J'ai toutefois raté mon BTS juste à cause de la compta, mais j'ai eu la chance de trouver aussi de faire une rencontre importante, et on va en parler parce que c'est dans la continuité. Donc, je commence ces premières sessions. Donc, au bout de 2 semaines, année scolaire, je ne sais plus c'était quel mois, je commence. J'arrive là-bas, je vois des jeunes qui, pareil, ont l'envie de faire ce métier. J'en découvre un petit peu plus sur le métier parce que Justement, la personne qui est en charge de ça a fait appel à plusieurs intervenants qui étaient des coachs là-bas, dont un circassien, un acrobate, une personne qui s'occupait des torches humaines, une personne qui s'occupait aussi des percussions voitures, des petits modules comme ça. On avait pu avoir aussi des gros entraînements physiques chaque jour. Et là, j'avais l'avantage puisque j'étais déjà très physique et très sportive. J'avais fait de la gym, j'avais fait pas mal de sport. Donc, je passe dans un groupe de bonnes, on va dire, personnes, enfin de, comment on peut dire, pas de
D'un certain
débutants.
niveau, quoi.
Voilà, d'un certain niveau. Et là, je fais la rencontre de super amis. Tony Tisch, Anoulak, Bounleut, je les mentionne parce qu'ils vont être la clé de ce qui va se passer par la suite. Et Jean-Adrien Espias. Ça, c'est le groupe des élites et on s'amuse, mais comme des fous là-bas, on s'entend bien, on commence à échanger sur plein de choses. Alors, Jean-Adrien, qui était fan de Jackie Chan et toutes ces choses-là, donc qui m'apporte toutes cette culture aussi cinématographique et la notion de filmer, alors que je n'avais jamais eu cet œil-là de se dire, mais il y a quelqu'un qui tient la caméra et en fait, il y a un mouvement de caméra. C'est pas un film pour un film. Il y a des instruments, des personnes qui permettent un film. Et là, je découvre waouh, l'envers du décor et même au niveau de la réalisation et plein de choses comme ça. Et je me dis, c'est exactement ce que je veux faire. La créativité qui m'accompagnait depuis tout ce temps prend un sens là. En tout cas, je sais que je veux faire quelque chose dans le cinéma, même si c'est pas la cascade ou en tout cas, c'est dans le cinéma. Donc, je fais ma première séance, enfin ma première session de 2 semaines. Je suis enrichie comme jamais. On garde contact avec les amis. On avait des petits téléphones portables à l'époque, donc on s'appelait tout le temps. Eh, venez, on va faire des vidéos. Alors Jean-Adrien, il avait une caméra. C'était waouh. Et du coup, on s'entraînait dans la forêt, dans des parcs et même en milieu urbain pour créer des chorégraphies pour entre nous dire allez venez on essaie de filmer on va faire nos propres petites vidéos et donc sur nos temps de libre on faisait ça jusqu'au jour où Anoulak nous dit eh hey, vous savez quoi les gars j'ai rencontré un des Yamakasi où j'habite à Logne etc et nous on dit waouh Yamakasi sérieux et tout. Et donc, on lui dit, mais t'es sûr que c'était lui? Bah ouais, je l'ai vu faire se déplacer comme ça. Je sais que c'est lui, c'est l'araignée, c'est Ciao. Et nous, Ciao Belle, en fait. Et il nous dit, venez, je suis sûre qu'il est là tous les dimanches, je le vois. Et puis j'ai commencé à parler avec lui la semaine dernière, etc. Donc, au fur et à mesure, on avait ça, cet écho, comme quoi, waouh, on pouvait rencontrer un Yamakasi. Et ça n'a pas manqué. On s'est rassemblés un jour avec Tony et Anoulak. Je crois qu'il y avait aussi Jean-Adrien et moi. Et au lac de Logne. Et là, on s'est dit, mais t'es sûr que c'est lui, etc. Et on voit en effet quelqu'un assez mystérieux comme ça, qui s'entraîne très durement, concentré, au loin. Et nous, on fait, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous regarde, etc. Donc, on commence à s'entraîner un petit peu en cascade, etc. Bon, ça a duré plusieurs rendez-vous avant qu'on puisse parler avec lui. Donc, on s'était vu plusieurs dimanches. Et un jour, Anoulak nous annonce vraiment qu'il a pu discuter avec lui, commence à s'entraîner avec lui, etc. Et nous, on a forcément envie d'y aller. Et voilà, il nous a dit, venez les gars, en petit comité par contre. Donc, on avait ce petit trio avec Jean-Adrien aussi, qui n'est pas resté par la suite. Mais voilà, c'était le trio infernal et on a rencontré Ciao de Yamakasi et ça a commencé, ça aussi, une autre histoire a commencé à partir de là. Mais pour faire le parallèle avec l'école, c'est que je n'ai pas fait beaucoup de sessions pour des raisons personnelles par rapport à cette école, en fait. Et donc, j'ai décidé d'arrêter alors que ma mère avait payé. Et je dis à ma mère, maman, t'inquiète pas, je vais y arriver, je sais que. Il va y avoir quelque chose, fais-moi confiance. Et de toute façon, je te demanderai plus rien. Je vais m'en sortir, je vais trouver des petits jobs à côté, mais je veux faire ça en tout cas. Je sais que c'est ce que je veux faire. Et mes parents m'ont laissé ensuite, m'ont fait confiance, m'ont accompagnée lorsque vraiment j'avais besoin. Mais très vite, avec le retour sur les Yamakasi, donc avec Ciao, on a commencé à s'entraîner chaque dimanche et puis après, c'est devenu un entraînement quotidien. Donc, c'est devenu, entre guillemets, mon métier, sans pour autant avoir de rémunération puisqu'on était en formation. Et lui-même nous a testés pour voir ce qu'on voulait, ce qu'on valait et notre motivation et si on avait le bon esprit pour ça. Et au bout d'un an à s'entraîner presque tous les jours, physiquement, à comprendre la mentale de cette discipline, eh bien là, on a commencé à faire des petits spectacles, des shows, puisqu'ils avaient ouvert une académie d'art du déplacement, avec les Yamakasi même. Donc, on commençait à être des éléments importants, la nouvelle génération des Yamakasi. J'étais la seule femme, et ça a été des années formidables. J'ai partagé au niveau fraternel, au niveau humain, au niveau sportif, et même au niveau professionnel, puisque j'ai commencé à avoir mes premiers contrats, parce qu'on faisait des représentations, des plateaux télé, des shows, etc. Ça a duré plusieurs années et je les remercie encore aujourd'hui. Voilà.
Vous avez le
Je
pied à l'étrier.
continue. Oui. Donc là, les études, on comprend bien que j'ai complètement arrêté. J'ai complètement arrêté. J'ai aucun revenu. J'en parle même pas à mes parents, mais il y a des fois où j'ai même pas un euro sur moi. Enfin, très, très difficile. Donc, beaucoup de périodes d'incertitude, certes, mais une volonté d'aller jusqu'au bout. Et ça a été des années difficiles, même si hein, on était tout le temps ensemble avec les Yamakasi, parce qu'ensuite on a commencé à rencontrer les autres Yamakasi. De là, au fur et à mesure du temps, on a commencé à faire partie, pardon, de l'académie des Yamakasi, l'ADD Académie, qui existe encore aujourd'hui, mais c'était ponctuel puisqu'il n'y avait pas non plus tout le temps du travail et on était quand même beaucoup puisque nous on était trois. Élève de Chao, mais chaque personne avait aussi ses propres élèves et on arrivait à une bonne trentaine à la fin. On était une grosse équipe de warriors comme ça qui s'entraînait corps et âme tous les jours, mais c'était façon militaire. C'était notre travail, c'était de s'entraîner. Mais on n'avait pas de travail à côté, quoi. C'était ça le
Mais
truc.
c'est, pardon, je m'arrête une seconde là-dessus,
Oui.
c'est que c'est quand même très particulier et ça souligne d'autant plus la force de caractère, la force morale qui était nécessaire. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, on est sportif de haut niveau ou qu'on a un métier difficile, peu importe, mais en tout cas qu'on, effectivement, on a besoin de travailler, on a besoin de s'entraîner, mais que, à côté de ça, il y a un objectif précis. Il y a un but à atteindre, il y a un résultat à obtenir, il y a une compétition à gagner, il y a peu importe.
Oui.
C'est un driver, c'est un moteur qui, bien évidemment, participe très largement à ce que le matin on se lève, que quand on touche un peu ses limites, on se force à les dépasser parce qu'on visualise quelque chose. Là, vous astreignez à cette discipline, vous vous soumettiez à une rudesse de l'entraînement. Alors que ce que tu me dis, c'est que finalement, il n'y avait pas vraiment de perspective claire, il n'y avait pas de choses à atteindre très définies.
Oui.
Donc ça devait être encore plus difficile. C'est parce qu'on sait très bien comment l'être humain fonctionne, mais quand t'as pas vraiment d'objectif, il n'y a même pas de casting, tout ça est encore très flou à l'époque. Donc ça devait être mentalement, qu'est-ce qui vous faisait tenir? C'était quoi tu rêvais à quoi? Pour justement te pousser à te lever et à te faire mal et à endurer tout ça.
Je rêvais à quoi? Je voulais simplement faire ce que j'aime dans la vie. J'avais besoin de donner un sens à mon existence, certes, mais surtout, il y a toujours eu cette notion de fraternité, d'équipe, où je savais que je voulais faire quelque chose en équipe. Ça, c'était important, avec des frères, parce que c'est mes frères, en fait. C'est mes frères de cœur. Donc, ce qui nous poussait à nous lever le matin, c'est le dépassement de c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller, c'est en fait il y a rien d'impossible, mais ça se transmettait par exemple, je vais prendre un exemple concret par rapport à un saut. Alors je m'explique, On s'entraîne pour un objectif. Bien évidemment, on ne s'entraîne pas juste pour entraîner le corps et avoir des muscles et être esthétiquement beau. C'était pas du tout, au contraire, pas du tout. Nous, notre esprit, c'était de entraîner le mental, d'autant plus que le corps. Le corps, qu'est-ce qui prédomine? Le corps, le mental, etc., l'esprit. C'était cette notion. Il y avait même des, on faisait beaucoup de méditation également. On pouvait regarder un sceau pendant des heures pour le visualiser et se dire, mon corps est entraîné pour aller dépasser mes limites, pour aller casser ce sceau. Il y avait des dépassements de soi énormes. On avait tous un challenge, on avait tous un objectif. Il y en a, c'était le Manpower, qui est un des sceaux maintenant les plus connus depuis longtemps, dans le parcours surtout, l'art du déplacement également. Mais voilà, le Manpower qui est un sceau de foi plus qu'autre chose, puisque là, si on se rate, on tombe de 20 mètres. Et ça, ce sceau, il est à Évry aussi. Moi, pareil, j'avais un sceau équivalent au Manpower que je regardais. Et en fait, on vivait pour ça. On était hors de la société, enfin, en tout cas, mes amis et moi, mes frères et moi, on était hors de la société. Les Yamakasi, c'était autre chose parce qu'ils avaient déjà fait le film, puis un deuxième, et ils avaient déjà des spectacles qui arrivaient, des choses comme ça. Donc, c'était super. Mais nous, on ne savait pas. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Et même, on allait pouvoir faire partie de cette troupe. Et en plus de ça, avec autant de travail, puisque c'était débutant quand même. On commençait à avoir des petits contrats, mais c'était pas ce qui nous permettait de vivre du tout. Donc, ce qui nous poussait vraiment à me lever, c'est retrouver mes frères de cœur pour se donner de la force, pour s'encourager à devenir des hommes forts. On voulait être des esprits forts dans des hommes forts. C'est vraiment la définition de Yamakasi. Esprit fort, corps fort. Et c'était tout ce qui nous... C'est comme si on était une armée et qu'on n'était pas dans le... dans un... On était dans un autre temps, en fait. Mais c'était le mental, c'était toute cette notion du dépassement de soi, de la connaissance de soi à travers cette discipline, de la confiance, de toutes ces valeurs, de toutes ces notions qui a trait à cette discipline, plus que le métier en lui-même. En fait, concrètement, on se disait, mais même un métier, c'est vrai, c'est bien, mais le métier arrivera au fur et à mesure. Il faut déjà, pour avoir ce métier-là, se préparer, être prêt et mériter aussi ce métier. Et donc, toutes ces années d'entraînement, c'était pour nous rendre plus forts psychologiquement, plus forts physiquement, etc., etc. Et parallèlement, bah, chacun, il y en a qui travaillaient là-bas, à la banque, l'autre. Tout le monde avait un petit travail à côté, un job alimentaire, à dire. Mais moi, je n'avais rien, j'étais carrément dévouée à ça. Je ne
Mais
voulais rien faire d'autre.
c'est assez stupéfiant ce
Oui.
que tu racontes là, parce que c'est stupéfiant à plus d'un titre. Vous étiez très jeune. Et que ce que tu décris là, c'est une philosophie au sens premier du terme, dont on pourrait penser que elle peut arriver plus tard en termes de maturité. Cette espèce de conscience du niveau d'excellence qu'on va atteindre pour soi, pour se façonner
Oui.
psychologiquement et physiquement, sans
Oui.
justement, pour revenir à ma question d'origine, qu'il y ait un résultat quelconque derrière, que ça produise quelque chose. Et tu disais tout à l'heure, on était un peu en marge de la société, c'est ça, c'est-à-dire que votre démarche, elle était, c'était une vraie démarche de construction personnelle, individuelle. On se façonne, on s'améliore,
Oui.
et on le fait pour ce que c'est, pas pour obtenir quelque chose de l'extérieur. Et
Oui.
c'est stupéfiant parce que c'est, je trouve, on entend assez rarement ce genre de démarche, d'entreprise, de philosophie, et a fortiori à cet âge-là. Et dans encore plus dans nos sociétés modernes, même à l'époque. Il y a un autre aspect aussi que je trouve stupéfiant, c'est ce que tu décris là, c'est que finalement, il y avait deux choses qui vous alimentaient, c'était la camaraderie, donc le
Oui.
fait d'être ensemble et de s'auto-alimenter, et puis cette philosophie qui se suffit à elle-même, en fait. C'est un peu comme quand on connaît un peu les arts martiaux japonais. Je me souviens plus du nom de cette pratique, mais il y a une pratique ancestrale. Ce sont des archers. Et en fait, il y a tout un rituel qui précède le tir avec l'arc et la flèche.
Oui.
C'est tout un rituel extrêmement codifié, avec des gestes qui sont au millimètre, des postures, etc. Et finalement, quand tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que dans toute la démarche, le tir en lui-même est finalement presque un peu secondaire. Enfin, bien évidemment qu'ils atteignent leur cible, bien évidemment que atteindre leur cible est important, mais il y a toute autre chose avant, en amont, et qui entoure cette pratique. Et c'est ce que me fait, c'est ce à quoi ça me fait penser, ce que tu décris. Et je trouve ça assez stupéfiant et admirable que des jeunes, qu'on imagine un petit peu, c'est touchant tout à l'heure, quand je t'écoutais, j'essayais de visualiser cette bande de gamins cachés derrière les fourrés en train de regarder leur star, en train de faire des sauts périlleux, en train d'avoir des yeux grands, ouverts, ronds, en disant, là, on va le voir, non, viens, on y va pas, on va pas le déranger, t'es ouf ou quoi, il va jamais nous parler, non mais vas-y, viens, on va le voir, etc. Et franchement, c'est touchant et c'est assez remarquable. Bon, bref, pardon, c'est une digression, mais en tout cas...
Avec plaisir.
Non, mais c'est important pour moi de revenir là-dessus, parce que voilà, on est dans le cœur des sujets que j'aborde sur Fortitude, et très souvent, on se dépasse parce qu'on a un obstacle, on se dépasse parce qu'on a un objectif, on se dépasse par plein de motivations, plein de choses qui font qu'on va se surpasser. Et vous, c'est la première fois que je suis amené à évoquer ça avec un invité, c'est le dépassement pour le dépassement.
Oui. Oui, le dépassement. Et c'est d'ailleurs la notion même de cet art, qui est l'art du déplacement, qui est aussi le parcours. C'est pas seulement aller... En fait, il y a le fait d'aller de l'avant. C'est ce qu'on aimait. Et on a un point A et on a un point B. Donc, durant... en fait, tout était en parallèle, imagé et relaté par rapport à la vie aussi. Ce sport n'était pas simplement un sport où on était bien et où on se dépassait, etc. Il y avait une notion mais immense par rapport à la vie, aux obstacles. C'est pour ça que j'en parle comme une philosophie et qu'on nous l'a enseigné comme une philosophie. C'est-à-dire qu'on vivait parcours, on mangeait parcours, on était parcours, enfin, art du déplacement avec les Yamakasi ou parcours avec David Bell, mais on était vraiment cela dans toutes nos dimensions. Et c'était spirituel également, parce qu'il y a ça aussi, c'est une démarche qu'on n'en a pas parlé, mais waouh, ça m'a vraiment accompagné tout le temps. La spiritualité, la profondeur des choses, avoir le sens de chaque chose, ne serait-ce qu'un mouvement. J'avais toujours cette chose de cette envie de définir un mouvement par son sens et certes par son aspect, l'aspect visuel, la grâce, etc., la symbolique, mais aussi dans le sens. Il fallait qu'il y ait un sens à tout ça. Et toute cette quête jusqu'à aujourd'hui, la façon dont je travaille encore aujourd'hui, c'est ce détail qui fait cette différence. Donc oui, c'était les gars, on est là, il va nous arriver des galères dans la vie, on va avoir des obstacles, on va avoir on va avoir des refus, des portes qui se ferment dans nos vies individuelles et collectives, c'est comme ça. Maintenant, on se prépare à ça. On prépare notre corps, on prépare notre cœur également et on prépare aussi notre mental pour ça. C'est pour ça que c'était plus important pour moi de comprendre ça avant de m'engager dans quoi que ce soit, plutôt que de continuer à faire quelque chose qui ne me parle pas et que je pensais être du temps perdu. Voilà. Donc, c'était vraiment la notion de l'art du déplacement.
Je vais te faire une confidence.
Mmh. Oui.
Quand j'ai découvert quand je t'ai découvert, j'avais très envie de te rencontrer, pouvoir parler, de pouvoir échanger. Mais j'étais pas sûr. Et j'avais même le trac là avant qu'on commence notre enregistrement. J'étais pas sûr d'arriver finalement à rattacher ce que tu fais, ton parcours, etc., à Fortitude. J'avais une intuition, j'avais un instinct. Je me suis dit il y a un truc, mais je ne le voyais pas, clairement. Et
Oui.
je me suis lancé dans ce... je t'ai invité, et puis en plus, tu m'as accueilli hyper sympa et tout ça. Donc, c'était... Mais honnêtement, hein, j'avais vraiment cette appréhension en me disant, j'espère que je ne vais pas me planter et que finalement, on ne se retrouve pas, elle et moi, dans ce pourquoi on fait Fortitude et les sujets qu'on aime aborder, etc. Et en fait, là, en t'écoutant, ben c'est dingue parce que je réalise que tout ce que tu viens de nous expliquer là et ton art, c'est l'art de l'obstacle.
Oui.
C'est l'art du déplacement, mais c'est l'art de l'obstacle aussi. Puisque quand vous sautez d'un immeuble à un autre, il y a un obstacle, c'est le vide. Et c'est un art, la manière dont vous allez surmonter l'obstacle, le traverser.
Oui.
Et finalement, tu apportes à Fortitude une dimension qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant, que je définirais comme ça, c'est vraiment ça, c'est l'art de l'obstacle. C'est-à-dire non seulement on va puiser en nous-mêmes pour arriver à se dépasser et à surmonter l'obstacle, mais en plus, on va le faire de manière artistique.
Oui.
Voilà, c'était le petit moment.
C'est
le petit moment. Non, mais c'est vrai. Voilà, j'ai une espèce d'épiphanie en t'écoutant et c'est chouette parce que c'est pas une Yamakasi que je vais expliquer ça. On peut, quand il y a de la sincérité, on retombe toujours sur ses pieds.
Oui.
Bref,
oui.
Pardon, désolé, il y en a encore qui vont dire
avec
Nicolas, tu parles trop dans tes épisodes, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment sincère et je suis ravi parce que du coup, on est totalement là en symbiose, Fortitude et ton parcours, avec un C, pas un K. Donc, malgré tout, on reprend le récit de ton parcours. Désolé,
allons-y.
Pour le jeu de moi.
Donc, je continuais de travailler pour pouvoir manger simplement et c'est tout. Et puis, commencer à payer mon loyer parce que par la suite, j'ai obtenu mon appartement. Donc là, c'est là où je me suis mis, j'ai dû passer à la troisième vitesse. Et je me dis, il faut absolument que je fasse un truc. Bon, c'est hors de question que je fasse du 35 heures. C'est hors de question. Je préfère même encore, tant pis, pas avoir d'appartement, rester chez mes parents et travailler dur. Et là, je décide de contacter Cyril Reilly, puisque je commence à avoir aussi des films phares, cultes. Et là, je me dis, voilà, il y a Luc Besson qui revient souvent, Luc Besson, qui a commencé à apporter des choses qui ont fait avancer aussi l'action en France. Et je me dis, mais attends, sur les génériques, il y a bien les noms des cascadeurs à la fin. Et je voyais Cyril Raffaelli, etc. Il y avait plusieurs personnes. Donc, je commence à chercher sur l'ordinateur chez mes parents. Ah, Cyril Raffaelli. Et là, je tombe sur un site internet. Et je vois contact. Bon, je me dis, j'ai rien à perdre. Allez, je me lance. Et je lui envoie un email, comme cela, simplement. Et je n'aurais jamais pu imaginer, j'espérais certes. Et je reçois une réponse de sa part. Donc, je lui explique ma volonté de devenir cascadeuse, mais que je n'ai absolument aucune connaissance de comment entrer dans ce milieu, que faire, comment faire, en fait, tout simplement. Et voilà. Et il me répond en m'invitant gentiment à un entraînement avec eux, lui et sa troupe. Et de là, je les rencontre dans une salle à Villejuif, une salle d'acrobatie, où ils chorégraphiaient des nouvelles chorégraphies, des nouveaux mouvements, ils s'entraînaient, et là, waouh, premier gros amour. Là, je me dis, je suis persuadée à 1000% que c'est ce que je veux faire et je vais travailler dur pour cela. Donc, il a eu la grande générosité de me faire venir plusieurs fois. Et là, je commence à travailler la chorégraphie de combat vraiment, véritablement, comme ils les travaillent, eux, professionnellement sur les films. Et j'y prends goût et je comprends la notion de l'art du spectacle aussi, et parce que la cascade, c'est, on va dire, les combats, ce n'est pas réel. Moi qui viens de la boxe, et là, je me dis, ah, il y a quand même une sacrée nuance. Et je désapprends un peu ce que j'ai appris pour le mettre au service de ce nouvel élan, comme ça. Et là, je décide de faire ça à 1000%. Du coup, une fois de plus, lâche tous mes autres jobs, etc. Je me dis, OK, Cyril, je veux faire ça. Je suis prête à m'entraîner 1000 heures par semaine s'il le faut. Je suis motivée. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je le fais. Et voilà. Même si ça prend du temps, je veux faire pour une fois dans ma vie un tournage. Je veux participer à un film, je veux savoir comment ça se passe et en apprendre un maximum sur les cascadeurs. Et donc, Cyril Raffaelli travaillait déjà beaucoup, donc je ne pouvais pas toujours m'entraîner avec eux. Donc, je m'entraînais à côté jusqu'au jour où je reçois un appel et où il me dit « c'est bon, t'es prête ?» Je lui dis « je suis prête depuis qu'on s'est vu, je suis prête ». Il me dit, bah alors c'est parti, j'ai un tournage, il y a de la place pour toi. Waouh! Et là, c'est le film Arthur et les Minimoys de Luc Besson, où ma première grosse expérience, en fait, c'est ma première expérience au-delà du spectacle et des choses comme ça. Et là, ben voilà, j'arrive, je n'ai même pas de protection. Il fallait qu'un cascadeur ait des protections, des pads, etc. Donc j'apprends, j'arrive avec mon sac à dos, ma bouteille d'eau et moi. Et voilà, il a été adorable. Il m'a dit, ah bah tiens, j'ai des protèques, voilà, les gars, ils vont t'en prêter, tout ça. Et moi, je pensais qu'il fallait y aller comme ça, en fait. Hein. On y va. J'étais prête à tout lancer sur le béton, chute d'escalier, machin, pas besoin. Et en fait, c'était ça qui était marrant, c'est que j'ai appris vraiment au fur et à mesure le métier et la sécurité qu'il y a derrière. Et comment fonctionne aussi l'industrie du cinéma et tout ça, et tout ça, et tout ça, grâce à ce premier pas, grâce à Cyril pour cette première opportunité. Enfin, par la suite de cette expérience, j'ai donc envoyé ma bande démo à Philippe Guégan, qui lui m'a aussi appelé pour un autre, enfin, pour un premier job avec lui, en tout cas. Et que ça a été satisfaisant, donc il m'a rappelé, et lui m'a aussi dit, oh, bah, tiens, il y a aussi. J'ai rencontré d'autres cascadeurs qui m'ont donné d'autres adresses e-mail et ça a pris du temps. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir mon petit nom. Et puis, au bout de 3 ans, 4 ans, là, je commençais à déjà en vivre, dans le sens où c'était un revenu fixe. Voilà, j'avais des dates par mois. Je travaillais en tant que cascadeuse, mais je ne disais pas, je ne mettais pas encore en avant que j'étais cascadeuse parce que voyant toutes ces personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années qui étaient déjà en place, il y avait toujours cette notion de respect du grand frère et de la grande sœur. Moi, je le prenais comme ça, en tout cas. C'est mon éducation et c'est pour ça que on se mettait pas en avant comme ça en disant je fais ci, je fais ça, il fallait le mériter. Et tant que je m'étais pas moi-même validée, je mettais pas en avant. Donc, c'est pour ça que ma carrière, j'ai pris un peu de temps à mettre ça, à me dire oui, je suis cascadeuse professionnelle parce qu'il fallait que j'ai un maximum d'expérience en tant que cascadeuse pour pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, je m'appelle Mounia Moula et je suis cascadeuse.
Ton humilité t'honore.
Merci.
Mais je fais quand même une petite parenthèse pour ceux qui nous
Oui.
écoutent. T'es lancé grâce à Cyril Raffaelli, Arthur et les Minimoys. Tu rentres dans ce monde-là. Faut quand
Oui.
même, si je cite quelques exemples de films sur lesquels tu as pu travailler, on a OSS 117, Rio ne répond plus. La liste est tellement longue. Les Lyonnais, bien évidemment.
Oui.
On a Ghost in the Shell, Le Roi Arthur, La Légende d'Excalibur, on a Inception avec Leonardo DiCaprio, et puis La Consécration. Ce que j'ai découvert, parce que je ne savais même pas que ça existait, c'est quand tu as participé à Wonder Woman, et où tu as décroché une
Un
récompense, en
award,
fait,
oui.
l'équivalent des, je ne sais pas moi, des Oscars ou des Césars de la cascade. Ça s'appelle le
Voilà.
Screen Actors Guild Award, des meilleures cascades. Pour
Oui.
Wonder Woman en 2017. Donc,
Et pour James Bond par la suite. Ouais.
et pour
On
James. Alors,
analysait.
j'allais y venir, pardon, tu m'as.
Ah
Tu m'as,
ouais.
tu,
Pardon.
t'as, j'étais en train de faire. Je montais
J'ai
en
spoilé.
crescendo, là. J'étais en train de monter la température. Et effectivement, parce que bon,
Oui.
c'est que le début, et ensuite, le chant du loup, Tom Clancy, enfin, la liste est absolument impressionnante. Et effectivement, tu as participé au James Bond Mourir peut attendre, où tu as doublé Ana de Armas,
Oui.
dans notamment cette scène qui est maintenant quand même assez mythique, où ils sont dans un bar et elle est sur des talons de 10 cm avec une robe échancrée et qu'elle trouve le moyen de mettre à mal une demi-douzaine de ou plus d'ailleurs de gars et voilà, et donc c'est là, c'est des vraies consécrations. On est très très
Oui,
loin
tout à
de la jeune femme qui se cachait derrière les buissons en regardant ses idoles.
fait.
Là, tu travailles avec Daniel Craig et
Oui.
ce parcours est absolument remarquable.
Bah merci. C'est vrai que oui, si on regarde après dans ma carrière, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le milieu et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses grâce à Dieu. Et du coup, de là, on va dire, donc on a eu Arthur et les Minimoys, puis Philippe Guégan, je me rappelle plus quel film était. Je rencontre aussi Alain Figlard, qui est
Oui,
un
bien
autre
sûr.
grand régleur cascade, qui me fait participer donc aux Lyonnais. Donc je rencontre Olivier Marchal. Mais cette rencontre avec Olivier Marchal a été aussi intéressante parce que c'est là où j'ai découvert que je voulais jouer aussi. Parce qu'il me regarde et me dit, mais Mounia, pardon, il me dit, Mounia, est-ce que tu joues? Je lui dis, je joue. Il me dit, ouais, tu joues. Et là, je l'entends comme il me l'avait envoyé. Et je lui dis, non, je ne joue pas encore, mais j'y pense. Il me dit, ok, très bien, parce que, ok, ce serait bien, ouais. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être aussi, on en parlera par la suite, parce que j'ai développé plusieurs carrières en partant de la cascade et c'est passé plein de choses.
Bien
J'ai
sûr.
pas eu que cette carrière de cascadeuse, mais à côté, en parallèle, beaucoup d'autres choses, mais qui ont toujours attrait à la même. Pour moi, c'était la musicalité dans les choses. Chaque chose que je pouvais faire, du moment qu'il y avait le corps et l'esprit, je pouvais tout faire. Toutes ces notions confondues ont fait que j'ai pu par la suite développer des carrières différentes à côté, en tant que coach, en tant que bodyguard aussi, puisque j'ai passé mon diplôme d'État. Protection rapprochée, j'ai commencé à faire des missions très intéressantes, travailler aussi on va dire, avec des personnes en self-défense bien précises pour aller chercher le combat réel pour pouvoir m'inspirer en tant que cascadeuse et ne pas rester dans quelque chose de joli visuellement, mais je voulais toujours qu'il y ait cette véracité en fait. L'authenticité, c'est vraiment ce qui m'a drivée toute ma vie. J'étais à la quête de la vérité, de ma vérité. Et je
Je
l'ai
voudrais
cherché partout. Oui.
m'arrêter une seconde sur une question que j'ai justement que j'avais prévu de te poser. Être cascadeur, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que tu vas te mettre en danger
Oui.
dans le cadre, dans un cadre artistique, et par
Oui.
définition, tu restes dans l'ombre.
Oui.
Tu restes dans une certaine ombre. En tout cas, voilà, tu n'es pas un personnage à part entière du film. On reconnaît pas les cascadeurs dans la rue. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont nécessaires. Ils ont une certaine reconnaissance, mais ce sont quand même des travailleurs de l'ombre. Cette ambivalence entre le risque que tu prends, les qualités que ça exige, et le fait de rester dans l'ombre, ça doit être quand même très difficile. En termes d'ego. Et quand je dis ego, l'ego, c'est pas forcément un terme péjoratif. Je
Oui,
précise quand même pour ceux
j'entends.
qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit ego, c'est tout de suite synonyme de péjoratif, mais il faut pas être hypocrite. On a tous de l'ego. Ça fait partie de la nature humaine. Et l'ego, c'est pas une chose sur laquelle on peut mettre un voile pudique en disant, oula, je parle pas de l'ego parce que sinon, c'est normal. C'est un driver aussi. C'est l'estime de soi, c'est l'estime que les autres peuvent avoir en nous, etc., etc. Donc, faut pas faire croire qu'on s'intéresse pas à ça, c'est un peu hypocrite. Et donc, moi, je me dis, ah, surtout en plus de nos jours, comment est-ce que tu vis avec ça? Est-ce que ça a été un sujet? Est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles, bah, finalement, tu as voulu avoir des carrières parallèles, à faire d'autres choses aussi, peut-être être un peu aussi au devant de la scène. suis pas en train de dire que t'as fait ces choix-là parce que tu voulais qu'on te reconnaisse dans la rue, mais c'est quand même quelque chose qui doit pas être évident.
Oui, c'est quelque chose qui peut ne pas être évident. Après, en connaissance de cause, on sait que quand on va être cascadeur, on va adorer ce qu'on va faire et même on va voir notre action dans tous les cas. Alors certes, on verra pas notre visage, mais on va voir notre action. Et tant qu'on voyait mon action, bah, je savais que le mouvement était vraiment stylé, comme on disait, ou que c'était beau et que waouh, c'était powerful. Là, j'avais tout gagné parce que
Alors
je
même qu'on ne
considère chaque
saurait pas que c'était
métier.
toi. Alors qu'on
Ah
même
bah
qu'on va pas
oui.
te reconnaître.
Moi, je m'en fichais carrément parce que j'étais là, c'est moi qui ai vécu ce moment sur le tournage et je l'ai fait de moi-même. Donc, je l'ai fait pour moi, c'est je l'ai fait. C'était moi. Ça m'est égal qu'on ne l'ait pas vu, en fait. Voilà, parce que je sais que c'était moi et c'est tout ce qui comptait. J'ai pris du plaisir et j'ai été dans la peau du personnage le temps d'un instant et c'était magnifique et c'était tout pour moi. Voilà.
Et, mais,
Donc, non, j'ai pas ressenti
merci
ça.
pour cette réponse parce que je trouve qu'on entend peu de témoignages comme ça aujourd'hui. Et je sais, ça va faire un peu vieux con ce que je vais dire, mais on vit une période avec les réseaux sociaux où
Bien sûr.
l'apparence est
Oui.
si importante et où il y a, je trouve, s'accompagne, enfin, va de pair avec cette course à une forme de notoriété qui est faciale, qui est visuelle, beaucoup d'imposture, beaucoup de. Aujourd'hui, c'est facile de paraître. Et tu parlais tout à l'heure, c'est très intéressant ta réponse, c'est-à-dire le fait d'être authentique, de pas être un imposteur justement, de savoir ce qu'on a fait, de savoir qu'on y a mis le travail, qu'on y a mis la compétence. Malheureusement, aujourd'hui. Il y a un mode de fonctionnement qui fait qu'un imposteur peut y arriver. Il peut y arriver beaucoup plus
Oh
facilement
oui,
qu'avant. Et que
bien sûr.
aujourd'hui, on a des générations entières qui vont idolâtrer des gens uniquement par rapport à l'image que ces gens façonnent, sans que derrière, il y ait quelque chose forcément de concret, qu'il y ait quelque chose de réel, qu'il y ait quelque chose de vrai. Et t'entendre dire, bah, en fait, OK, moi, on me reconnaît pas dans la rue. Oui, c'est pas moi la star facialement de cette scène ou de ce film, mais je l'ai fait en y mettant mon cœur et ma compétence. Et moi, je sais ce que j'ai donné. Je sais la valeur que j'ai dans le travail que j'ai fourni. Et ben, c'est malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on entend autant qu'on devrait aujourd'hui.
En fait, j'ai toujours un garde-fou qui me dit, fais attention à ce que comment est-ce que tu formules tes désirs, tes envies et voilà. Parce que j'aime, comme je disais tout à l'heure, le sens dans chaque chose. Voilà, on est tous en quête de quelque chose sur cette planète. Voilà, le temps d'une vie, on est tous en quête de quelque chose. Et je pense qu'en faisant retour sur mes pas, ce qui m'a vraiment le moteur de tout ce que j'ai pu vous exposer là, c'est la quête de vérité dans tout ce que j'ai pu faire et de sincérité.
C'est une très belle façon de conclure notre échange,
Oui.
parce que toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Et je trouve que c'est bien de terminer sur ce que tu viens de dire là. Un petit mot peut-être de ton actualité, brûlante. On peut te voir aujourd'hui. Elle n'est pas encore sortie, il me semble, sur Prime, la série Zorro.
Il y a aussi Furies,
Oui, sur
en
Netflix.
voilà, sur Netflix. Donc, j'ai participé depuis le début. On a fait 3 mois de préparation cascade. J'étais aussi en préparation cascade des acteurs principaux. Dina El Arabi, Marina Foïs, Jérémy Nadeau, etc. Chandor, que j'ai adoré aussi. Donc, très, très grosse série. On a eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de préparation. Bah, toujours mes coachings d'acteurs. Je prépare actuellement un acteur qui va jouer Jean-Paul Belmondo pour un remake, on va dire, c'est même pas un remake, c'est des coulisses de À bout de souffle. Sinon, en écriture, bah là, je suis sur un travail également de pièce de théâtre en comédienne. Ça, c'est cool.
Génial.
Et en parallèle, je travaille beaucoup avec les municipalités sur mes temps de disponibles avec Les jeunes en réinsertion avec l'APELS, un organisme national pour aider les jeunes à trouver un chemin, un sens. J'interviens surtout pour du coaching, sans être pour autant du coaching. Ils le savent pas, mais c'est du coaching à travers les valeurs sportives et artistiques de par les projets cinématographiques, l'écriture et la réalisation même de courts-métrages. Voilà.
Merci beaucoup,
Sans
Mounia.
plaisir.
Merci pour
Avec plaisir.
justement d'avoir pris le temps dans cet emploi du temps qui est extrêmement chargé de consacrer ce temps à Fortitude. Je suis extrêmement reconnaissant. C'est ton parcours. Ce que tu fais, comment tu le fais et comment tu l'exprimes est extrêmement inspirant.
Merci.
Et je pense que les gens vont, ceux qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir, vont t'adorer. Je les invite à consulter, bien évidemment, ton profil sur les réseaux sociaux qui est très sympa. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de photos extrêmement impressionnantes parce que c'est un peu la limite de l'exercice avec ce podcast, c'est qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de
Oui.
vidéo, donc forcément,
Oui.
ne se rendre pas compte de ton talent et de ta force et de ton athlétisme qui est assez époustouflant. Donc, je les invite à aller voir tout ça et je te
Merci.
souhaite bien évidemment une très bonne continuation et encore merci d'avoir accepté de participer à Fortitude.
Merci pour la confiance et l'attention et avec un énorme plaisir. Et à très bientôt. On reste connectés et j'ai hâte de découvrir aussi d'autres profils, d'autres personnes, d'autres parcours. Voilà, pour le podcast à venir.
Merci.